entrepreneur. Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bon jeudi 4 juin 2026, beaucoup de soleil, pas d'humidité, c'est presque l'été qui s'en vient dans 17 jours exactement. Ça va bien Mathieu?
Ça va très bien
même. Oui, même si vous avez mis votre t-shirt où on peut lire « En beau maudit ».
Exactement.
Mais il faut quand même les plier. Beau comme beauté et mot comme M-O-T-S et dit D-I-T-S. C'est bien ça. Alors, allons-y avec de beaux mots pour vous souhaiter la bienvenue à cette émission qui s'intitule « Au quotidien ». Et il y a de la joie aujourd'hui puisqu'on a le bonheur de recevoir Michel Rabagliati, auteur, illustrateur, bédéiste, qui a accepté notre invitation pour venir causer de son plus récent ouvrage que j'ai lu avec beaucoup de bonheur, même s'il y a de la tristesse dans « Il y a de la joie ». Alors, bien hâte de lui parler dans la dernière demi-heure de l'émission. Et puis, mes chroniqueurs du jeudi sont là, au bout du fil. Bonjour Monique.
Bonjour Hélène.
Et bonjour Yvan.
Bonjour Hélène.
Présentez-nous vos sujets. Monique d'abord.
Je vous parle de retour au travail en présence, Hélène.
Oui.
On en a pas mal entendu parler ces derniers temps, mais il y a une chercheure, professeure de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'est penchée sur la question parce que ce n'est pas à l'avantage de tout le monde, surtout lorsqu'on a certaines incapacités. Alors, on met toujours de l'avant la gestion des horaires, mais il y a autre chose qu'il faut considérer lorsque on prône ce retour au travail en présence. Alors, c'est ce qu'elle nous présente à travers différentes études qui ont été faites, tant au niveau de personnes qui se sentent un peu lésées par ce retour au travail au bureau, ou encore par les gestionnaires qui sont être un peu déstabilisé sur le plan de l'équité lorsqu'ils doivent prendre des décisions et parce que peut-être qu'il n'y a pas de règles suffisamment bien définies.
Oui, merci. Yvan?
Moi, c'est un peu différent de ce que je vous présente normalement, qui des articles qui sont très, très basés sur l'activité physique. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé votre suggestion, Yvan, de parler d'une personne qui est assez représentative de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et il raconte son histoire où il est passé de Mathieu, qui est son vrai prénom, à Mathy, qui est le prénom qu'il a utilisé pour une chaîne YouTube. Alors, vous allez voir son parcours, c'est très intéressant.
Merci beaucoup. Et nous aurons aussi des parasports en compagnie de Dominique Tremblay. Dum dum da da 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 dum dum da da.
Je suis douce comme l'eau, et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon. Amants sont doux, doux, doux. Je suis Je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps
Le temps est bon, une chanson d'Isabelle Pierre, ou chantée par Isabelle Pierre.
Oui, une chanson qui va bien avec cette très belle journée. Isabelle Pierre, j'apprenais tout récemment qu'elle était la tante de la comédienne Anne-Marie Cadieux. Et elle est toujours en vie. Et si elle nous écoute, on la salue. Elle et sa voix tellement belle. À la une de la presse plus d'aujourd'hui, itinérance à Laval, une crise sans précédent. Je vous résume le dossier de Caroline Touzin et Marco Campanosi. Laval vit une crise de l'itinérance sans précédent. Selon une étude de l'Observatoire québécois des inégalités, les trajectoires menant à la rue sont multiples. Femmes victimes de violences conjugales, ex-placés de la DPJ, nouveaux arrivants, aînés, évincés de leur logement, mais aussi un nombre croissant de travailleurs à faible revenu frappés par une succession d'épreuves. David, à l'aube de la quarantaine, n'aurait jamais imaginé se retrouver au refuge de Laval. Après la perte de son emploi, le décès de sa mère et une hausse de loyer qu'il ne pouvait plus assumer, il a dû quitter son logement. Malgré ses recherches, il ne trouve rien. Tout est trop cher. C'est d'ailleurs David qui est à la une de la presse d'aujourd'hui. Le refuge de Laval observe une explosion de la demande. Le nombre de personnes différentes qui l'ont fréquenté est passé de 297 en 2022-2023 à 1049 en 2025-2026. Plus de la moitié étaient de nouveaux usagers, souvent sans domicile fixe, depuis moins de 6 mois. Faute de financement et de personnel, l'organisme refuse chaque jour entre 10 et 15 personnes. Camille, 35 ans, illustre aussi cette nouvelle réalité. Après avoir perdu un emploi bien rémunéré, il gagnait 27 $ de l'heure. Il a vu aussi son loyer augmenter. Il a accumulé des dettes avant d'être évincé. Trop honteux pour demander l'aide sociale, il a dormi sur des bancs de parc. C'est rough dormir sur un banc de parc, dit Camille. L'étude note aussi une présence croissante de campements à Laval, phénomène presque inexistant avant 2020. L'article met aussi en lumière le parcours de Karine Léveillé, ici à de l'espoir, ancienne itinérante, après avoir vécu une dépression majeure, une dépendance à l'alcool et 3 années d'errance entre refuge et parc. Elle a réussi à se reconstruire grâce à un accompagnement adapté. Aujourd'hui, père chercheuse dans l'étude, elle affirme que se sortir de l'itinérance est une job à temps plein. Maintenant, à la une, toujours de la presse plus, on parle de Musique Plus qui renaîtra sur TikTok. Alors, je ne sais pas si vous êtes des adeptes de TikTok. Alexandre Vigneault en parle, une déclinaison de Musique Plus pensée pour TikTok et diffusée sur cette plateforme sera lancée le 11 juin. Le contenu sera piloté par la boîte de production Attraction et présenté par des VJ nouveaux genres au profil adapté à la réalité des réseaux sociaux. Une nouvelle proposition qui emballe 2 ex-VJ sondés par la presse. Il s'agit d'Anne-Marie Wettencha et de Mike Gauthier. Et puis à la une du Journal de Montréal, triste nouvelle, on en parle depuis quelques semaines. Après les transporteurs, les hôtels Visa et Mastercard abandonnent l'île. Rien ne va plus à Cuba. Le 1er mai, Donald Trump a signé un décret présidentiel imposant un nouveau paquet de sanctions qui menace notamment les activités d'entreprises étrangères collaborant avec l'État cubain. Ça fait vraiment mal au cœur de voir ce qui se passe à Cuba. J'ai de la peine pour les Cubains. C'était un endroit que j'aimais tellement visiter, commenter. Cathy Chabot, adepte des voyages et qui est allée à Cuba 7 fois. Hier, le groupe hôtelier espagnol Melia a annoncé mettre un terme aux activités de 15 hôtels à Cuba avec effet immédiat. Il imite ainsi Iberostar, une autre entreprise espagnole qui avait fait une annonce similaire la veille. Malgré le contexte, la conseillère en voyage, Annie Daigle, encourage les Québécois à ne pas abandonner l'île. « Oui, j'ai eu des coupures d'électricité, mais les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, le monde qui veut y aller, je les book », dit celle qui vient de revenir de Santa Clara. Et puis, la une du Devoir, une photo de Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui a prononcé un discours mercredi au port de Québec, dans lequel elle a exposé sa vision pour une relation plus forte entre le Québec et sa province. Elle est notamment revenue à la charge avec l'idée d'un corridor énergétique Est-Ouest qui passerait par le Québec avant d'atteindre l'Europe. Madame Smith a insisté sur un point commun entre le Québec et l'Alberta, à savoir le droit constitutionnel des provinces de déterminer leur propre avenir. Pendant son vol vers la capitale, un ancien membre de l'aviation royale canadienne lui a proposé de rebaptiser cette relation interprovinciale Albertec. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, préférerait peut-être Québerta, a-t-elle lancé le sourire en coin. On va travailler sur quelque chose. Et Ottawa renonce à faire payer les géants du Web. Le gouvernement abandonne son plan visant à faire contribuer les plateformes de diffusion au financement du contenu d'ici. 600 millions, c'est la somme prévue en soutien immédiat au secteur audio et audiovisuel du Canada qui sera finalement payé par Ottawa. Et toujours à la une du Devoir de ce 4 juin, fin du monde et fin du mois, même combat. On peut lutter contre la crise climatique en réduisant les inégalités économiques, estiment des experts internationaux. Dans un nouveau rapport, un des experts dit, et je cite, « Il n'y a aucune chance que les électeurs aux revenus moyens et faibles ou les pays du Sud acceptent par exemple des taxes carbone ou un niveau de prospérité moindre que les autres. » Thank you. En cette 30e semaine québécoise des personnes handicapées, Yvan, vous allez partager avec nos auditeurs une histoire racontée par Rose Aimée Autonne-Témorin.
Oui, dans la presse d'hier, c'est l'histoire de Mathieu, qui s'appelle Mathie maintenant sur les réseaux sociaux. Et c'est une histoire d'espoir. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer à quelques reprises Michel Cordé, qui est aussi dans le vestiaire.
Oui.
Et vous allez voir qu'il y a des parallèles vraiment intéressants entre les deux histoires. Alors, mars 2019, après un an à craindre la réaction des internautes, Mathie se lance enfin sur YouTube. Ça faisait longtemps qu'une amie l'encourageait à raconter son histoire. Le problème, c'est que Mathieu Laroche fuyait les caméras et les appareils photos au point de refuser les photos de famille. Et bon, après des années à essuyer des insultes au sujet de son apparence, il se doutait bien que l'Internet ne lui réserverait pas que de la tendresse. Il reste que Mathieu, 30 ans, avait envie de se dévoiler. Ce jour de mars 2019, il a donc adopté le surnom de Mathie, M-A-T-T-H-Y, et refait une vingtaine de fois sa vidéo avant de la publier sur la chaîne YouTube qu'il venait de créer. Une chaîne nommée Le Petit Singe. Parce qu'il nous raconte que quand j'étais jeune, on me traitait de face de singe. Je me suis dit que ce serait bon de me réapproprier une insulte pour la transformer en quelque chose de positif. Mathieu Laroche est né avec une maladie orpheline. Cette anomalie génétique affecte ses os et sa formation crânio-faciale, en plus d'avoir des répercussions sur son élocution. Bref, il est en situation de handicap. Quand l'affaire Mike Ward contre Jérémy Gabriel a éclaté, Mathie a eu envie de se prononcer. Sa chaîne YouTube, jusque-là confidentielle, a soudainement attiré des centaines de milliers de personnes. On venait de le découvrir. Sont ensuite entrés en scène Instagram, où Mathie se décrit comme un nain connu, donc N-A-I-N, évidemment, et sur TikTok. C'est là que le créateur de contenu a trouvé sa signature en produisant des sketchs humoristiques, notamment pour illustrer sa réalité. Et là, on peut aller dans l'article et le petit vidéo est à cet endroit-là. Et la vidéo nous explique, par exemple, que aller chercher un verre dans une armoire, c'est comme gravir une montagne. Qu'un appel au service à la clientèle, ça peut devenir bizarre quand on a une voix atypique. Et que le prix d'entrée d'un buffet ne reflète malheureusement pas du tout ce que son corps est capable d'ingérer. Mathieu reconnaît que certaines personnes en situation de handicap sont tannées de devoir nous éduquer. Mais puisqu'il faut des gens pour donner dans la sensibilisation, il est heureux de se porter volontaire. De toute façon, ces sketchs dépassent la question des limitations. J'allais en voir certains sur TikTok d'ailleurs. Mathie aborde aussi des sujets universels, comme cette étrange manie de verrouiller une porte d'auto à l'infini. Je ne sais pas, Hélène, comment vous êtes avec la commande à distance pour verrouiller votre voiture?
Mais c'est pas à l'infini, là, c'est peut-être deux fois là, quand je ne suis pas concentré. Okay. Vous,
ben,
Yvan?
Moi, j'ai même une application pour la faire à distance.
Ah oui, OK.
Ouais,
ça vous angoisse un peu.
Oui, ben j'attends pour un film au cinéma, puis d'un coup, est-ce que j'ai verrouillé ma voiture?
Oui.
Fait que là, je vois sur mon application pour le faire à distance. Mathie, il nous montre dans sa petite vidéo que lui, c'est une commande à distance là, qui fait clic quand il l'actionne. Puis là, il dort, puis il se demande s'il a verrouillé sa voiture, fait qu'il prend son... puis il l'actionne, puis on entend le bip. Alors, voilà. Donc, c'est pas toujours tourné autour du handicap. L'autre exemple qu'il donne, c'est que comment qu'elle s'appelle?
Rose Aimée Autant-Témorin.
Oui, c'est ça. Don, c'est que il reprend une dizaine de fois son vidéo avant de le mettre en ligne. Et là, j'ai perdu. Oui, c'est ça. OK. Bref, avec sa création de contenu, Mati nous rappelle qu'il est comme tout le monde, même si on l'a longtemps pris à part. En fait, je vais juste faire une petite correction. C'est pas des vidéos. Il reprend 10 fois un message vocal avant de l'envoyer à son destinataire.
D'accord. C'est et c'est ce qu'il montre.
Oui, oui. Diplômé en administration, Mathieu a cogné à de nombreuses portes sans le moindre succès. Il dit « Il y a un moment où je ne voyais pas d'avenir pour moi, je n'avais pas de travail ni d'amoureux et je vivais toujours chez ma mère. » Alors, il y a 3 ans, sa sœur, qui a la même maladie que lui, a lancé une idée. Et s'ils obtenaient leur permis de conduire? Mathieu ne croyait pas la chose possible. Le processus a été complexe, mais ils l'ont fait. Avec le permis est venue une certaine autonomie. L'effet boule de neige a été spectaculaire. On suivit un premier appartement, un conjoint, un emploi dans un organisme LGBT et une confiance en soi grandissante. Aujourd'hui, Mathieu peut dire qu'il est heureux. Il ajoute du même coup qu'il se sait chanceux. Il peut se déplacer, il a tous ses membres, il peut parler. Certaines personnes se trouvent dans des situations beaucoup plus compliquées. D'ailleurs, en cette 30e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées, il aimerait qu'on se penche davantage sur l'accessibilité universelle. Trop souvent, on dit qu'un lieu est accessible, mais une fois sur place, les individus avec des enjeux de mobilité se heurtent à des marches, à un espace trop restreint pour leur fauteuil ou à des salles de bain ou des toilettes inadaptées. Comment est-ce encore possible aujourd'hui? Marie n'est pas handicapée, mais elle a eu une blessure à un moment donné.
Votre conjointe?
Ma conjointe. Et puis, elle était en fauteuil roulant. On est allé voir une pièce de théâtre. Puis, à la Place des Arts, c'est quand même pas le... Puis oui, il y a une façon de se rendre par ascenseur, en évitant les escaliers, mais c'est vraiment pas évident. C'est une petite course à obstacles pour arriver jusque-là.
Ah oui, à la Place des Arts.
À la Place des Arts. D'ailleurs, en cette 30e édition, sur le plan intime, Mati se donne pour mission d'encourager la présence de personnes handicapées dans les médias. Selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022 de Statistique Canada, 21% de la population québécoise âgée de plus de 15 ans vit avec au moins une incapacité. Où sont ces gens dans nos écrans? En plus de prendre sa place en ligne, Mathieu a joué dans la comédie « Sans rendez-vous » que j'ai vu, mais je ne me souviens pas de Mathieu, mais je vais peut-être faire une petite recherche, et participé à la série documentaire « Amour sans limite ». Il a adoré ses projets, mais la question qu'il se pose, avec raison, c'est à quand des personnages handicapés dont la quête n'est pas centrée sur leurs conditions? Puis c'est en lisant cette phrase que j'ai fait le lien avec Michel Cordé, qui est surtout connu pour son rôle dans Vestiaire, où ce sont tous des personnes handicapées. Puis de toute évidence, Michel Cordé a démontré, sans l'ombre d'un doute, qu'il est un très bon comédien. Alors, la question qui est soulevée ici de Mathieu est tout à fait à propos. En attendant, Mathieu a aujourd'hui 37 ans, un permis de conduire, un appartement, un chum et près de 400 000 abonnés sur TikTok. Avec ce présent auquel il n'a jamais osé rêver, comment entrevoit-il l'avenir? Il dit alors, « Je suis en période de réflexion. J'ai des projets en tête, mais on verra. La vie nous amène là où on en a besoin. J'ai hâte de découvrir la suite. » Cet espoir a de quoi nous réjouir. Et dans l'article, il y a un lien vers le compte TikTok de Mathieu Laroche. C'est là que je suis allé découvrir plusieurs de ses petites vidéos. Alors, c'est une histoire vraiment, vraiment intéressante, vraiment stimulante. Et malheureusement, c'est aussi la réalité de plusieurs personnes. Je pense que avec cet article, avec une série comme Vestiaire, entre autres, on est plus sensibilisé à cette réalité-là. Mais entre la sensibilisation puis la réalité, il y a encore une bonne marge.
Ouais.
Alors, je pense qu'il faut en parler, de continuer à en parler souvent, souvent, souvent.
Merci de l'avoir fait, Yvan. Quelle belle formation. On écoutera la chanson au complet une autre fois. Pour tout de suite, je vous invite à rester avec nous jusqu'à 11 heures. C'est Au quotidien, l'émission Au quotidien, donc, animée par Hélène Denis en ce moment, et ça me fait bien plaisir. Restez là, puisqu'on va entendre une demande spéciale de notre collègue Jean-Christophe qui part en vacances au Portugal, et il avait envie d'entendre cette chanson, Le grain de sable, par Jeanne Mathieu. Kerouac s'en vient avec sa chronique tout de suite après la chanson de Jeanne Mathieu. Restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Moi qui ne suis qu'un tout petit grain de sable, il m'arrive d'imaginer que je suis grande. Je suis capable d'être formidable, d'avancer à pas de géant. Moi qui ne suis qu'un petit grain de poussière, crois souvent que je peux faire tourner le vent et que je suis libre. Possible que je peux arrêter le temps, mais si je lève les yeux, je me dis, je suis. Je ne suis
En tout cas, elle en a de la voix. Le grain de sable succède de Michel Fugain de son Big Bazar interprété par Jade Mathieu, qu'on a connu, entre autres émissions. À la voix de cette année, elle était candidate et plusieurs personnes voulaient qu'elle gagne, mais elle n'a pas gagné. Elle continue quand même de faire son chemin, puisque chanter, c'est sa passion. Et c'est une demande spéciale de notre collègue Jean-Christophe. C'est un cadeau pour Jean-Christophe qui part en vacances la semaine prochaine au Portugal. Chanceux, n'est-ce pas, Monique?
Oh oui, quel beau pays, n'est-ce
pas,
Hélène?
Oui. Pour ceux et celles qui ont eu la chance de le visiter, là, oui, c'est un coup de cœur absolu. Monique, aujourd'hui, vous nous parlez de télétravail.
Je vous parle de télétravail. Alors, c'est sous la plume d'Alexandra Lecourt qui, comme je vous le disais en présentation, est professeure titulaire au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un article qui a été publié dans la conversation du 20 mai dernier. Alors, le télétravail n'a pas seulement offert de la flexibilité, mais il a aussi réduit des obstacles que le présentiel rendait incontournables. Quand une organisation ferme ses portes, elle ne revient pas à un état neutre. Elle réinstalle une norme qui avantage certains profils de personnes et en fragilise d'autres, notamment des personnes ayant des incapacités. Ces derniers, par ailleurs, il faut le noter, forment une proportion importante de la population active, signe de la diversité de la main-d'œuvre canadienne. Le recours plus étendu au télétravail dans les dernières années, ça a été enclenché, on se rappelle, par cette pandémie que nous avons tous subie, ça a modifié concrètement les conditions d'accès au travail pour certains groupes. Il a permis à des personnes ayant des incapacités de participer au travail en réduisant des contraintes du présentiel, comme le transport ou la rigidité d'horaire. Revenir à une norme de présence sans tenir compte de ses effets ne constitue pas un simple retour en arrière. Ça peut aussi signifier un recul par rapport à des formes d'inclusion qui s'étaient progressivement instaurées. Les employeurs qui prônent le retour au présentiel invoquent l'efficacité collective, la créativité, la cohésion et le mentorat. Bon, on ne peut pas nier que ces objectifs comptent, mais une règle identique ne convient pas à tous, puisque la présence obligatoire n'impose pas le même coût de participation selon les personnes. En tant que professeure en ergothérapie à l'UQTR et chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, Alexandra Lecourt s'intéresse depuis plus de 15 ans à la participation au travail des personnes ayant des incapacités. Ses travaux ont documenté comment le télétravail peut soutenir une participation durable à condition d'un encadrement adéquat et de ressources appropriées. Ainsi, à partir de résultats d'études menées au cours des 5 dernières années, elle examine comment le retour massif au présentiel risque de fragiliser l'accès équitable au travail en transformant un levier d'accessibilité en exception précaire. Le retour uniforme au bureau réaffirme une norme implicite, celle d'un travailleur mobile, disponible et stable sur le plan fonctionnel. Il impose des exigences qui semblent ordinaires, mais qui deviennent sélectives dans leurs effets. Dans une étude portant sur le télétravail chez les personnes ayant des incapacités motrices et sensorielles, celle-ci explique que le travail en présence ajoute des contraintes qui diminuent leur capacité à travailler, même quand les tâches à effectuer restent les mêmes. Par exemple, le déplacement ressort comme contrainte majeure, surtout lorsque le transport adapté impose des délais, de l'attente et une planification lourde. Le télétravail permet de récupérer ce temps et de préserver l'énergie et la disponibilité. On pourrait ajouter le stress qui est en moins, n'est-ce pas? Une autre étude menée auprès de personnes souffrant de douleurs chroniques abonde dans le même sens. Les personnes participantes rapportent que la flexibilité d'horaire et la possibilité d'organiser les pauses favorisent une expérience de travail plus soutenable. Elles décrivent la possibilité de changer de position, de s'étirer ou d'appliquer de la chaleur, par exemple, comme des stratégies plus faciles à intégrer à domicile. Ces bénéfices n'éliminent pas les risques, bien sûr. Les personnes rencontrées évoquent l'isolement et la difficulté à maintenir des limites temporelles. Elles estiment néanmoins que le télétravail reste pertinent comme mesure d'accommodement lorsque l'organisation reconnaît ces risques et met en place des balises pour les prévenir. La réaffirmation du présentiel comme norme modifie le statut du télétravail. Dans une troisième étude menée auprès de gestionnaires, cette fois, les personnes participantes décrivent une gestion au cas par cas où les décisions reposent sur les arbitrages entre bénéfices, fonctionnement de l'équipe et perception d'équité. Cette logique entraîne des pratiques différentes selon les équipes et selon les gestionnaires. Une personne peut obtenir un arrangement dans une équipe, mais pas dans une autre, ou le perdre lors d'un changement de gestionnaire. Donc, l'accès au télétravail devient alors moins prévisible. Il faut mentionner et souligner que le cadre légal contribue aussi à cette logique. La jurisprudence récente rappelle que le télétravail n'est pas un droit systématique. Un employeur peut exiger la présence sur site lorsque les tâches le requièrent. Une décision québécoise a confirmé le refus d'un télétravail exclusif à long terme en retenant que la présence sur site demeurait essentielle aux fonctions et que cet accommodement pouvait constituer une contrainte excessive. Dans les milieux de travail, cette lecture peut renforcer l'idée que le télétravail doit être démontré et documenté dans chaque situation, ce qui place plus souvent du côté de l'exception que de la règle. Cette logique d'exception fait du télétravail donc une entente à négocier plutôt qu'une modalité organisée. Elle déplace l'enjeu vers le quotidien des équipes où l'encadrement du gestionnaire, devient déterminant. Une revue portant sur des travailleurs ayant des enjeux de santé suggère que le télétravail s'associe le plus souvent à une diminution de l'absentéisme, tout en indiquant un risque de travailler en étant malade lorsque le cadre demeure insuffisant. Ce risque devient plus plausible lorsque l'accès dépend d'arrangements au cas par cas, parce que les règles restent floues et manquent de stabilité. Dans ce contexte, des gestionnaires rapportent un manque de ressources et des dilemmes éthiques lorsqu'ils arbitrent entre accommodement, équité, productivité et santé au travail. Ainsi, la précarité de l'accès et l'encadrement variable influencent concrètement la capacité de travailler des personnes ayant des incapacités et de le faire sans détériorer leur santé. En conclusion, le retour au présentiel ne pose pas seulement une question d'organisation des bureaux. On a entendu, n'est-ce pas, Hélène, que dans certains bureaux, il n'y a plus d'espace suffisant. Mm-hmm. Il pose une question d'accès au travail. Quand l'accès au télétravail dépend d'exceptions, les employés deviennent vulnérables aux variations de contexte et aux changements de gestion. Une organisation peut transformer le télétravail d'une exception fragile en levier d'inclusion durable en définissant des règles claires, stables et prévisibles qui garantissent un accès au travail possible, soutenable et équitable pour tous. Alors vivement que ces règles soient mises en place pour favoriser justement le télétravail auprès de personnes qui auraient des incapacités dont on a évoqué dans cet article.
Très intéressant. Texte d'Alexandra Lecourt, professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monique, savez-vous comment les Français nomment le télétravail?
Oh mon Dieu, j'imagine un terme anglais, je sais pas.
Non, c'est tout simplement tété.
Oh non, tété!
N'oublie pas, je suis en tété demain.
Ah bon, non. Alors ça pourrait être en tété d'un bébé, mais bon.
Ah oh, oui, mais ici, ce sont les deux lettres, tété.
Oui, d'accord.
Merci oui, Monique, merci Yvan. On se quitte ici, puis on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère.
Oui, tout à fait, au plaisir.
Au plaisir.
Vous écoutez la musique populaire.
It's a lovely day, it's a lovely day. Des fois, faut que je me rappelle d'oublier tout le reste. It's a lovely day. Je me réveiller, c'est l'heure de la sieste. Prendre ma neuvième vie, combien il t'en reste? Hey, sur le décalage horaire, le vent lève ta jupe, you work on your tent.
Titre Lovely Day, une chanson de Clay and Friends avec Command de bord.
Oui, une belle chanson pleine de soleil. Et on joint Dominique Tremblay qui doit être heureux, lui qui aime le soleil, la chaleur.
Ah oui, c'est vraiment le fun. On peut vraiment dire que l'été est arrivé. Yeah!
Oui, 17 jours plus tôt, mais on va le prendre, c'est sûr. Alors,
oui, tout à fait.
Dominique, vous commencez par. Ben, vous allez nous faire un survol de l'actualité des parasports, pas compliqué.
Oui, oui, ben semblait ça. Aujourd'hui, cette semaine, c'est un petit peu plus tranquille que ça avait été au cours des deux dernières semaines auparavant. Il y avait beaucoup, beaucoup d'actions. Aujourd'hui, ben les athlètes peuvent profiter un petit peu plus du beau soleil et peut-être reprendre les activités la semaine prochaine ou un peu plus tard.
Alors, première nouvelle, deux Canadiens participent à la Coupe du monde de boccia. Ça se passe au Kazakhstan.
Évidemment, ben, il y a toujours des exceptions. C'est occupé dans le monde du boccia. Alison Levine et Julian Chabanou se retrouvent dans la capitale du Kazakhstan pour disputer la Coupe du monde qui s'y déroule jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Ça fait deux jours que les compétitions individuelles ont commencé et je suis content d'annoncer que les deux athlètes, Alison et Julian, ont terminé au premier rang de leur poule et passeront directement au quart de finale. C'était une bonne nouvelle pour les deux athlètes canadiens qui avaient connu un petit peu plus de difficultés lors de la Coupe du monde de Montréal qui s'était déroulée au début du mois de mai. Alison n'avait pas réussi à sortir de son poule, qu'elle faisait partie, et Julian avait été éliminé en quart de finale. Donc, on leur souhaite bonne chance, et après les compétitions individuelles, il aura maintenant les compétitions par équipe.
Dominique, je ne vais pas vous prendre, mais je vais le faire quand même, vous qui êtes un grand connaisseur de boccia. Mathieu me dit, et c'est confirmé, il faut dire Levine et non Levine. Alison Levine.
Je suis désolé.
Mais non, ne soyez pas désolé. La prochaine fois que vous allez parler d'elle, vous allez le prononcer correctement.
Je vais essayer, je vous promets rien.
Nous serons aux aguets. Alors, on continue avec le Comité paralympique canadien qui a annoncé le montant d'argent qui a été remis aux athlètes médaillés des Jeux de Milan.
Oui, bien, je ne parlerai pas juste des athlètes paralympiens, je vais aussi parler des athlètes olympiens, donc les deux grands jeux qui se sont déroulés au mois de mars en Italie, les Jeux olympiques et paralympiques. Il y a un total de 620 000 $ qui seront remis à 105 athlètes, tant olympiques que paralympiques. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Les athlètes paralympiens, depuis les Jeux de Tokyo, reçoivent 20 000 $ pour une médaille d'or, 15 000 pour une médaille d'argent et 10 000 pour une médaille de bronze. Donc, ça aide un petit peu à les aider pour continuer à remporter des médailles. C'est une très bonne nouvelle. Et on remercie la Fondation Malavia qui aide le Comité paralympique à être capable de donner ces montants d'argent pour chacune des médailles remportées par les athlètes. Il y a plusieurs pays qui font ce genre Donc, ils ont ce genre de programme-là pour donner de l'argent aux médaillés. Donc, le Canada en fait maintenant partie et c'est très bien comme ça.
Une autre bonne nouvelle qui concerne cette fois l'athlète Stephanie Reed qui a remporté un prix prestigieux.
Oui, donc c'est une ancienne athlète d'athlétisme. Elle a représenté le Canada aux Jeux paralympiques de Pékin. Elle est mariée à l'athlète canadien Brent Lakatos. Et bon, aux Jeux de 2012 et de 2016, Stephanie Reed a représenté la Grande-Bretagne, puisque ses parents sont originaires de ce pays. Mais elle a remporté le prix de la meilleure chef d'antenne sportive lors des pour les émissions des Jeux paralympiques de Paris. Donc, c'est une très bonne nouvelle
oui.
pour cette athlète canadienne, même si bon, on se concentre un peu plus sur les francophones. Je voulais le souligner, puisque c'est une belle récompense pour le monde paralympique. Et elle est quand même, bon, à mariée avec Brent Lakatos depuis très longtemps. Ils sont tous les deux résidents de la Grande-Bretagne.
Ah, on en apprend des choses avec vous. Et ouais. En terminant, Dominique, vous nous parlez d'un tournoi de basketball en fauteuil roulant et d'un autre qui aura lieu en fin de semaine.
Oui, c'est ça. Il y a l'autre tournoi, c'est le tournoi de goalball qui va avoir lieu à l'école Joseph Charbonneau. C'est un tournoi qui va regrouper quatre équipes de cinq joueurs. C'est un tournoi de développement pour amener des nouveaux joueurs à pratiquer ce sport. Ils vont donc s'affronter pendant 2 jours. Et c'est la 5e édition de ce tournoi. Nancy, blanc de mémoire, donc donnez-moi 2 secondes. Nancy Gagnon, donc, qui a représenté le Canada pendant longtemps. Donc, on le souhaite bonne chance à ces athlètes qui vont participer à cette compétition. Pour ce qui a trait du tournoi de basketball en fauteuil roulant, c'est le championnat canadien qui commence demain à Québec. C'est un peu un événement test pour les Jeux du Canada qui vont se dérouler l'hiver prochain. C'est une compétition junior qui va regrouper les 8 provinces. Ces 8 provinces-là vont se retrouver aux Jeux du Canada. Donc, c'est une bonne expérience et la compétition se déroule jusqu'à dimanche au Cégep de Limoilou à Québec.
Merci beaucoup, Dominique. Et petite question de hockey en finissant, là. Caroline ou Las Vegas?
C'est dur à dire. J'aimerais bien que Las Vegas gagne, puisque la Caroline a éliminé le Canadien.
Oui.
On verra, ça va être probablement très intéressant, très serré là, comme série. Et les deux équipes sont très bien entraînées. Donc, ça va être intéressant. Puis, ça risque d'être une longue série. Donc, pour ceux qui aiment le hockey, ça va durer encore quelques jours.
Bon, alors, pour l'instant, c'est Vegas qui mène, mais on est loin de la coupe aux lièvres, comme dirait l'autre.
Oui, c'est d'emblée ça.
Prochain match ce soir. Merci beaucoup, Dominique. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, je ne pourrai pas être là. Je vais être en direction de Los Angeles dans l'avion
pour
chanceux. Visiter les sites de compétition des Jeux paralympiques de 2028. Donc, on va se reparler la semaine suivante.
Oui.
Je vais faire un petit retour sur mon voyage.
Avec grand plaisir. Alors, bon voyage, puis à dans 2 semaines, donc. Merci.
Merci, bye-bye.
Bye.
Tu parles souvent que t'as perdu ton temps, comme si avoir des broches te refroidit le sang. Aussi jouer aux Sims et commander en ligne pour que les gens nous voient quand on sort en ville. Allez, j'ai attaché mes souliers. Allez, j'ai attaché mes souliers.
vers 20 ans.
Robert, l'été, je m'ennuie.
À l'approche de la campagne électorale, quatre regroupements veulent rendre aux personnes en situation de handicap la place qui leur revient dans le débat politique. Ils souhaitent aussi dénombrer les personnes handicapées vivant en situation d'itinérance au Québec cet été. Les partis politiques n'ont pratiquement aucune mesure de prévue sur leur plateforme électorale pour l'élection qui s'en vient en octobre à l'égard des personnes handicapées, déplore en entrevue Paul-Claude Bérubé, directeur général de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Il fait partie de ceux qui ont pris la parole à l'Hôtel Plaza de Québec mercredi. D'après lui, les personnes handicapées représentent une force économique négligée. Il y a 1,4 million de personnes en situation de handicap au Québec. Il y en a 450 000 qui travaillent. Il y en aurait un autre 400 000 qui pourraient travailler si on leur donnait des conditions favorables pour qu'elles puissent travailler, dit-il. Selon lui, il y a plusieurs besoins auxquels le gouvernement doit s'attaquer pour que les personnes handicapées puissent davantage participer à la société. On parle de transport adapté, de soutien à domicile, d'accès à l'emploi, d'accès au logement, problèmes d'itinérance, revenus de base. Il revient sur l'ajout d'un million d'heures de soutien à domicile annoncé par la première ministre Christine Fréchette le mois dernier. Tout cela, c'est bien. Ça pour les personnes aînées, mais pour les personnes en situation de handicap, on n'en tient pas suffisamment compte. Alors, les quatre organismes, les quatre regroupements qui veulent rendre aux personnes en situation de handicap la place qui leur revient sont Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec, l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec et la Fédération québécoise de l'autisme. Une nouvelle que vous pouvez lire au grand complet sur le site de Radio-Canada. Restez avec nous, une chanson de la belle musique et aussi surtout la présence de Michel Rabagliati qui vient nous présenter son nouveau roman illustré, Il y a de la joie.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Dream of you every night now. I dream of you every night now. I think I'm in trouble. I think I'm in trouble.
Give me a reason.
Le prélude en do majeur du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, interprété par Glenn Gould, un morceau décortiqué de façon originale dans le nouvel album de Michel Rabagliati intitulé « Il y a de la joie ». Bonjour Michel Rabagliati.
Bonjour Hélène.
C'est une joie de vous accueillir dans le studio de Canal M.
Merci, merci de me sortir d'Annecyc.
Oui, je suis sortie d'Annecyc ce matin pour me rendre ici d'ailleurs. J'habite le même quartier que vous.
Ah, c'est vrai?
Oh. Oui, oui. On a ça en commun. Et aussi notre amour peut-être pour Bach, mais je suis jalouse. Vous avez un piano, pas moi. Est-ce que la musique de Bach fait partie des choses de la vie qui vous procurent de la joie, Michel Rabagliati?
Ben, oui, entre autres. Là, c'est sûr que cette musique-là est magnifique. Puis c'est comme c'est jouable au piano. Puis comme je suis un débutant au piano, il reste des... Comme j'en parle dans le livre, c'est une pièce quand même qui est assez facile. Là, c'est comme une pièce qu'on peut jouer si on débute, puis qui est magnifique. Mais je vais pas plus loin que ça. Pour moi, Bach, c'est... Je veux dire, je suis pas de calibre pour jouer les pièces les plus importantes, mais j'ai un petit livret que j'ai depuis des années que ça s'appelle Bach for Beginners. Là.
C'est bien correct. Ah oui?
Ouais, tous les livres de musique que j'ai, c'est Jazz for Beginners, Classic for Beginners. Ça fait comme, je sais pas, 20 ans que je joue du piano, mais je suis encore dans les livres Beginners.
Mais pas BD pour Beginners, par exemple.
Non, je pense je suis meilleur là-dedans qu'en
oui,
piano.
Oui, il y a de la joie dans votre roman illustré, mais on ne peut pas dire qu'elle est concentrée, cette joie. Alors, je me demandais, c'était quoi l'idée derrière la création de cette œuvre, l'idée ou l'émotion?
Ouais, c'est un drôle de livre. C'est un livre qui a été fait, je ne sais pas trop. Ça a été longuement mûri parce que je n'avais pas vraiment d'idée pour un nouveau livre.
Après Rosalie.
Après Rosalie, tu sais. Puis Rosalie, ça avait été fait pendant la pandémie. Ça, c'est un livre qui est un peu en capsule. Hein, c'est des capsules indépendantes.
Oui, des
de la
fragments.
Joie. J'avais envie de parler de l'air du temps. Là, je me disais, où est-ce qu'on est rendu? Puis il n'y a pas de joie. Puis je trouve qu'on est dans une période bien sombre au niveau politique. Puis les nouvelles sont mauvaises. Puis j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler de à quel point les nouvelles me rentrent dedans, mais je ne voulais pas non plus un livre de 184 pages là-dessus. C'est insupportable. Fait que je le fais en...
On a les journaux pour ça.
Ouais, ouais. C'est exactement ce que je fais au début. Donc, 8 pages de mauvaises nouvelles en concentré sur une danse de genre d'un genre de Charles Trenet, Maurice Chevalier en même temps.
Puis s'effondre à un moment donné.
Ouais, c'est ça. Puis que là, derrière lui défile toutes les pires nouvelles de ces dernières années. Ça finit avec l'apothéose, c'est la réélection de Trump. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis là, mais là, c'est dit. Après ça, c'est comme, bon, là, mais dans sa tête, lui, c'est la fin du monde.
Oui.
Fait que, bon, ben, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que je fais? Il se demande qu'est-ce qu'il va faire pour comme passer la fin du monde, tu sais. Okay, mais
alors, il fait du ménage.
Mais c'est rapidement évacué. Hein. Vous l'avez vu dans les premières pages. Après ça s'étiole assez vite, cette idée
du
monde. Puis là, on retourne dans sa vie, dans le fond quotidienne, comme tout le monde. Je veux dire, on vit avec ça, on vit avec ce back-sack de mauvaises nouvelles, puis tous les jours, c'est de pire en pire. C'est effrayant. Ces dernières années, c'est faut avoir l'estomac bien accroché, là, je trouve, comme citoyen.
Il faut faire avec. On n'a pas le choix. L'épigraphe de Sénèque, c'est un vieux de la vieille.
Oui, c'est un vieux de la vieille.
La citation qu'on trouve au début de votre album va comme suit. « Pour être heureux, il faut éliminer deux choses, la peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. Mm-hmm. » Vaste programme. moins simple qu'une recette de soupe.
Ouais.
Et est-ce que vous diriez que cette phrase annonce les thèmes de « Il y a de la joie » ?
Oui, oui, ça annonce un peu. C'est les citations qu'on lit des fois dans les magazines ou qu'on voit passer sur Facebook. J'ai fait comme « Oh, ça, c'est drôle, ça me parle ce truc, ça me parle cette phrase-là. » Puis c'est vrai que moi, je suis un peu coincé dans le passé, puis j'avance pas trop dans le futur.
Comme Paul?
Comme Paul, oui. Comme Paul, lui, comme c'est un nostalgique. Il est nettement coincé dans son passé, puis il fait du surplace, tu sais.
Ouais.
Sauf que cette phrase-là lui correspond bien. D'ailleurs, sa mère vient lui réitérer à la fin de se bouger.
Oui, de s'ouvrir vers du nouveau.
Ouais.
Je pensais à ça, ça pourrait être bien, à un moment donné, Paul, chez le psychanalyste.
Ah oh, oui, ben c'est ça. J'ai déjà quelqu'un toutes les semaines pour ça,
oui.
C'est beau.
Okay. Ça, c'est Michel.
Oui, c'est Michel.
Alors, vous dessinez la ville de Montréal admirablement bien. Est-ce que vous aimez la dessiner même quand il s'agit de reproduire des graffitis horribles qui défigurent tout?
Ben,
d'ailleurs, vous en avez contre les graffitis.
C'est ça. Ben, moi, là, dans ce livre-là, je fais un portrait. Tu sais, c'est le contraire de Paul à Montréal où je glorifie toutes les époques de la ville puis les merveilleuses constructions qu'il y a eu depuis Maisonneuve puis Jeanne-Mance. Là, tu sais, ça, c'était Paul à Montréal. C'était vraiment une illustration de l'évolution de la ville.
Ouais.
Ici, on est vraiment tel que je la vois, moi. Peut-être avec mon... J'ai une psyché un peu plus sombre là-dedans parce que je pense que c'est la fin du monde. Fait que il y a de ça aussi. Tu sais, comme je vais montrer les mauvais murs, les mauvais quartiers, puis comment la ville est maganée.
Mais c'est difficile de les contourner.
Oui, parce que... Oui, en plus, il sort tellement au bon moment, ce livre-là. C'est insupportable, les chantiers en ce moment. C'est que les déplacements, c'est qu'en automobile, c'est rendu quasiment impossible. J'ai laissé tomber, là. Je reste en cycle, puis je viens ici...
Même en métro, c'est pas nécessairement évident, mais c'est mieux.
Ouais. Puis là, c'est les multiplications de chantiers. Tout est orange, il y a les cônes oranges à perte de vue partout où on regarde, dans n'importe quel quartier. C'est quand même spécial, là, une ville comme ça, en éternelle construction. Puis on voit quand même qu'il y en a pour des décennies. Là. Je suis pas un contracteur, mais je peux faire une évaluation rapide de, faire les entrées d'eau de toutes les villes, de toutes les rues qui sont anciennes, ça c'est plusieurs années, les rues, réparer les nids de poules, les aqueducs, après ça tu recommences à regarder par en haut, les hôpitaux, les écoles, tout est taqué avec de la broche, il y en a pour un méchant bout, là.
Arrêtez, je vais faire une crise de panique.
Il y en a pour un maudit bout,
Et
j'ai envie de me plaindre comme citoyen, mais
oui,
je
mais
trouve
ça
que
fait
c'est comique.
Bien.
Ouais, les gens disent, c'est comique de la façon que tu le fais. Puis c'est vrai qu'il y a un double page dans le livre que j'aime beaucoup, qui m'a pris beaucoup de temps à faire. C'est un spread, comme on appelle. Là. C'est la rue Sherbrooke au coin de Bleury, là, en 1900, tu sais, qui est magnifique.
Ah oui, avec on respire.
Il y a des pavés, il y a des fleurs aux fenêtres, il y a trois petits hôtels particuliers, c'est magnifique.
C'était donc bien dans le passé.
Oui, c'est ça. C'était mieux avant, mais je le dis pas. Mais
non.
Puis là, on tourne la page, puis là, c'est bing, là, c'est aujourd'hui.
Les graffitis, les bords à ongles, comme marquis.
L'abandon des trois maisons, les fenêtres cassées, puis ça, c'est vrai, ce coin de rue-là. Moi, j'en reviens pas. Chaque fois que je passe devant, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
C'était beau dans le temps. Ces trois petits blocs vraiment cute.
Laisser aller totalement.
Ah oui, complètement. Ouais. C'est squatté, c'est effrayant.
Alors, Michel, il n'y a pas que des graffitis. On se promène avec vous, avec Paul, sur Fleury, justement, dans votre quartier, le quartier Hanisic, au parc du Mont-Royal, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Et ça donne des illustrations et puis des moments très touchants. Vous l'avez évoqué avec votre mère.
C'est un tour de ville. Hein. C'était un de mes titres. C'était tour de ville ou voyage au bout de la rue. C'était, c'était deux de mes titres. Puis on a
ça aurait pu être écrit « Il y a de la joie » ou « Tour de ville » ou « Voyage au bout de la rue ».
Oui, parce que c'était trois bons titres. « Voyage au bout de la rue », j'aimais bien ça. Parce que c'est un peu ça. Là, dans le fond, c'est un livre qui se passe sur 36 heures. C'est comme la première journée, il est à Hanisic. Là, puis il est chez eux, puis il bouge pas, puis il sort pas. La deuxième journée, ben il a son sac à dos, puis il sort.
Il s'arrête au café Aroma.
Ouais,
d'ailleurs, le propriétaire, je pense, vous a salué, vous a remercié pour cette belle publicité.
Ah non, j'ai fait une super publicité. Lui, il s'attendait pas. Il dit, hey, ça a pas de bon sens. J'entends parler de ça tous les jours. Je savais pas que c'était important. Il savait pas vraiment ce que je faisais dans la vie. J'ai dit, c'est 55 000 exemplaires qui vont se promener dans les prochains mois. Tu vas l'entendre parler. Là.
Ah ouais. Mais c'est un endroit quand même à fréquenter parce que les salades et les sandwichs sont très, très bons.
Oui.
et Michel, parlez-nous de votre passion pour la papeterie Nota Bene. Ça, je ne connaissais pas cet endroit.
Ah, ben c'est le plus beau
magasin. Ça existe depuis longtemps?
Depuis 2004 ou 2007 ou je sais quoi, quelque chose comme ça. C'est un magasin que je fréquente depuis des années. Pour moi, c'est le plus... comme je dis dans le livre, c'est le seul magasin qui me donne envie de sortir de chez nous pour aller dans un... Tu sais, ça ne m'intéresse pas, moi, le magasin.
Je l'ai vu. C'est vrai qu'il est très beau, très attrayant.
Oui. C'est super bien nu. Puis le propriétaire, Russell...
Mathieu me montre sa plume. C'est là où il l'a acheté.
Ben, c'est ça. Écoutez, c'est les plus beaux crayons en ville, les plus beaux...
Les gommes à effacer.
Tout ce que vous avez en tête, je veux dire, comme crayon, il est sien. Puis c'est un magasin qui est très fidèle à sa clientèle. Fait que si tu achètes un crayon, je sais pas, un Lamy ou un Parker ou un je sais pas quoi, ils vont avoir les recharges, pendant le reste de leur vie, tu sais. Fait que tu peux aller remplacer.
Ah, oui.
En plus, ils prennent des crayons, ils recyclent des crayons usagés, des bics, des affaires. Apportez-nous ça, on recycle nos vieux crayons. C'est vraiment un magasin super.
Bon, on va aller chez Aroma. Et aussi à la papeterie Nota Bene.
Oh, mon Dieu, oui.
Vous dessinez avec le crayon de plomb?
Ben oui, ben c'est ma nouvelle marotte, c'est le crayon de plomb. J'ai découvert le crayon de plomb avec Rosalie parce que ça vient d'une fatigue physique, en fait. C'est que j'avais mal au bras, j'ai encore bien mal au bras.
Ah,
puis
oui.
La BD me tire beaucoup dans les nerfs, puis dans la main, ça me... En tout cas, c'est une expérience pénible. Maintenant, les pages avec 9 cases miniatures, tout ça, je trouve ça trop... C'est comme l'orfèvrerie.
Il y en a un
c'est...
peu dans Il y a de la joie,
oui,
mais...
j'ai fait quelques petites bandes dessinées juste pour me satisfaire, mais...
Est-ce que ça vous manque?
Ben, c'est très efficace. Ben, en fait, j'ai découvert un moyen d'expression qui est très cool ici. Donc, la prose, ça permet d'être plus bavard, parce qu'en BD, oui. On est limité on peut pas garrocher des paragraphes en bande dessinée comme ça, puis essayer de les rentrer dans les phylactères, c'est bien trop pénible pour le lecteur. Fait qu'il faut rester concis, puis il faut pas trop parler. Tandis que là, ici, ah, ben là, c'est le champ libre, on parle tant qu'on veut. Puis là, c'est en roman, en prose, on pogne le dactylo, puis on va jusqu'à temps qu'on n'ait plus rien à dire.
Vous écrivez avec une dactylo? Machine à écrire.
J'aimerais bien ça, j'en ai encore une, mais bon, l'ordinateur est plus pratique.
Ouais.
Mais cette forme-là me permet trois façons de parler. Donc, la prose pour les dialogues, les pensées intérieures, tout ça. Puis j'ai pas besoin de faire de description de décor parce que je suis un dessinateur. Fait que là, toutes mes descriptions de décor passent par le dessin. Mm-hmm. Fait que j'économise tout ça, la didascalie, puis il s'en va là, puis il sort de ça. On le voit bien, il se promène au parc. On le voit bien qu'il se promène au parc. Fait que tout ça, j'ai comme ça m'allège beaucoup. Fait que je garde l'essentiel, mais il manque quelque chose pour raconter une bonne blague, là, avec un bon punch. La BD, il n'y a rien comme ça. Puis quand je suis dans le livre, à trois endroits, je me disais, là, ça prend de la BD, ça me prend quelque chose de plus punchy,
oui.
un truc en séquence qui va faire rire le lecteur. C'est difficile en prose de
ça
le faire.
Ça fait rire le lecteur et ça lui fait plaisir aussi de retrouver.
Oui, peut-être, je pense.
Oui. Est-ce que vous aimez écrire et dessiner également de façon égale?
Oui. Bien là, je commence à aimer beaucoup écrire. Je commence à trouver c'est quoi le trip là, de sculpter des histoires avec des caractères puis des phrases. Puis je trouve ça bien le fun écrire. Oui. Puis j'aime bien dessiner. Puis je trouve que ça m'allège. En fait, faire des illustrations à hauteur d'homme, à grandeur d'homme, c'est-à-dire des illustrations 5 par 7, 8 par 10, c'est un format normal.
Ouais.
En BD, t'es dans les cases. Un pouce et demi par un pouce et demi, 2 pouces par 2 pouces, c'est petit là, c'est bien bien petit. Ça faire les dessins, ça me réjouit juste au plomb. Il y a pas d'ancrage. Puis maintenant,
ça veut dire quoi ça?
Ben, ancrer, c'est-à-dire faire un premier jet au plomb, un deuxième crayonné, après ça, faire de l'encre par-dessus, l'ancrage, tu sais. Ben, après ça, effacer. Fait que c'est 3 étapes, tandis qu'ici, j'ai juste comme 2 étapes. Un premier crayonné, un autre par-dessus, puis c'est fini. Puis on peut le scanner. Maintenant, on a des scanners de table qui sont très le fun parce qu'on peut contrôler le contraste, puis... les tons de gris. Fait qu'à la fin, ça donne... On contrôle notre finale direct à la maison. On peut faire ça. Puis on peut arrêter au plomb. Beaucoup d'auteurs BD font que du plomb maintenant. Puis ils scannent, puis ils boostent le contraste au bout. Fait que ça leur fait des lignes noires, quasiment noires.
Et mais je me demandais, est-ce que votre livre... Ça vient naturellement là, dans ma tête, cette question. Est-ce que votre livre est disponible en ligne, en format numérique?
Je crois que oui, parce que Rosalie l'est. Donc, ça se passe... Je n'ai jamais rien signé là-dessus, mais
ouais.
Je pense que oui. Parce que Rosalie, il l'est, je pense, sur tablette.
Ah.
Puis je pense que ce format-là se prête bien à ça, parce que là, c'est page par page.
Ouais.
Les BD, les 10 bandes dessinées de Paul, ne sont pas disponibles en ligne. Trop difficile, il faut scroller là-dedans, c'est pas très intéressant.
Non, c'est moins plaisant.
6, 9, cases, parce que c'est très busy, là, c'est pas très le fun à lire. Là, on a de la typo machine, là-dedans, ça se lit bien.
La typo machine, vous avez un vocabulaire qui vous est extrêmement familier.
Oui.
Vous parlez de typographie, justement, dans votre BD. Vous êtes en amour avec la typographie,
ah,
en
oui.
tout cas, certains caractères.
Ah, oui, ah, oui.
Et vous nous sensibilisez à plein de choses, justement, la typographie.
Ben,
pourquoi vous êtes si sensible
à
ça?
C'est des affaires que je me dis, ça peut intéresser le lecteur. Tu sais,
oui, c'est vrai.
C'est drôle, ça me vient un peu de Robert Lepage, cette idée-là.
Ah,
parce
oui?
que Robert Lepage, quand je vais voir ses pièces, il nous parle d'affaires. Je dis, bon, Yann, c'est champ gauche, hein, mais ça m'intéresse. Il est
oui.
capable de nous rendre, de nous intéresser à des affaires qui sont passées au Japon, ou je sais pas trop, des trucs techniques, de la science.
Il nous prend pas pour des cons.
De la philo, c'est ça.
Ouais.
Puis il se dit, bon, je le raconte comme faux, d'une façon plaisante. je pense que je suis capable de, d'avoir, je vais avoir mon spectateur. Il a tellement raison. Ça, j'ai pris ça, c'était que il parle de ce qu'il veut, lui, puis comme, bordel, ça marche, tu m'intéresses tout le temps.
C'est vrai.
Tu m'intéresses, tes patentes m'intéressent.
Fait que est-ce qu'il le sait?
Ben, je ne sais pas s'il le sait.
Mais là, il va le savoir.
Mais là, je le dis. Mais moi, la typo, c'est, je viens d'une famille de typographes. Mon père était typographe, ma sœur aussi, là, tu sais, puis ça, tout le temps, ça, c'est mon père en parlait à table, j'allais à son atelier, tout ça, puis... j'ai moi-même étudié en typographie pour commencer avant de faire.
Alors, c'est important le caractère.
Le caractère m'intéresse, puis comme je veux juste sensibiliser les gens à dire gardez ce que vous lisez là, sur vos feuilles que vous imprimez à journée longue à des milliers de copies. Là. Ces caractères-là ont été dessinés par quelqu'un.
C'est vrai.
C'est quelqu'un qui s'est penché là-dessus.
Il y a toujours
là.
Une personne pour un caractère.
Oui, puis c'est échiné là-dessus. Faire une famille de caractères, ça peut prendre 5 ans. Là. C'est super long de dessiner des caractères. Tu sais, tu as tout l'alphabet en capital, bas de case, A à Z, la ponctuation, les numéros. Les chiffres, les caractères spéciaux.
Ah, moi, j'ai étudié quel caractère. Est-ce que vous voyez sur ma feuille? Ah, vous n'avez pas vos lunettes?
Ah, j'ai pas mes lunettes.
Ça commence par A.
Ah, ben là, vous êtes dans ce qu'on appelle un caractère bâton. Hein,
bâton, ouais, pas bâton. Arial.
Un caractère bâton. Arial.
Pour les journalistes, c'est
futura.
Bien.
Oui, c'est très bien, c'est propre. Là, c'est, mais quand tu parles de typo de labeur, là, les typographies, les fontes de labeur, c'est les...
Créer.
C'est les grands classiques. Non, les fontes de labeur, c'est les fontes de texte courant qu'on lit, qui sont agréables à lire dans un roman, par exemple. Là, c'est souvent les caractères à sérif, avec des empattements, comme un qui est très populaire, c'est fou, qui est complètement encore très utilisé aujourd'hui parce qu'il est irrésistible, il est délicieux, puis c'est le plus doux pour les yeux, c'est Garamond. Le Garamond...
Oui, vous l'aimez celui-là.
Ah, je l'adore. Il était dessiné en 1535, inchangé aujourd'hui. Wow. C'est comme un hit. T'sais, Claude Garamond, il a visé dans le mille, puis comme genre, puis ça vient de l'écriture dans le fond, à la plume, ça, puis au pinceau, puis c'est au début, c'était vraiment des manuscrits, puis ça, quand les caractères mobiles sont arrivés, ben là, avec Gutenberg, tout ça, il y a des dessinateurs comme ça, comme Gutenberg, Baskerville, Bodoni, c'est les créateurs de caractères, puis ça, le Bodoni, on l'utilise encore aujourd'hui, c'est vieux, là, c'est des caractères, c'est avant 1800. C'est moi, ça me passionne.
Bien, ça paraît. Et puis, votre passion est contagieuse. Mais je me disais, ça serait bien que vous donniez, je ne sais pas, un cours, une conférence là-dessus.
J'en ai déjà donné à Québec, une conférence.
Bon, alors, on en veut encore. Michel Rabagliati, Paul raconte que ce sont des auteurs de bandes dessinées de l'intime. C'est très beau, bandes dessinées de l'intime, qui lui ont donné envie de faire une BD d'autofiction. On sait bien que Paul, c'est votre alter ego, mais est-ce qu'il l'est à 100%?
Ben oui, parce que c'est le système que j'ai pris, hein, c'est ça.
Ouais.
C'est le piège de l'autofiction, comme je dis souvent, c'est comme faut donner de soi-même. Puis moi, j'ai embarqué en bande dessinée quand justement ça s'est arrivé. J'ai été séduit par la bande dessinée d'autofiction puis d'autobiographique. Là. Dans les années, fin des années 80 même, j'ai vu des choses arriver. C'est arrivé des anglophones, c'est arrivé de Toronto. J'ai vu Chester Brown, surtout un auteur de Toronto que j'adore, qui lui est arrivé avec une bande dessinée que j'avais un type que j'avais jamais vu. Il racontait sa vie à Châteauguay avec sa mère qui était hyper catholique. Il voulait pas qu'il lise de bande dessinée puis tout ça. Ça m'a fasciné. J'ai trouvé ça waouh. Il racontait ses journées à l'école avec ses camarades de classe, tout ça. Les souvenirs, tu sais, il était en mode souvenir, mais ça m'a captivé beaucoup. Après ça, il y avait d'autres auteurs aussi, Joe Matt, Seth, après ça, de France aussi, ça a commencé... Spiegelman aussi, hein? Mouse,
oui.
Bien important, Mouse, dans tout ça, on peut dire, c'est comme la pierre angulaire un peu, là, c'est un peu de là que tout ce mouvement-là a parti. Il y en avait des gens qui en faisaient avant, Will Eisner un peu plus tôt que Spiegelman, mais Mouse, ça a vraiment parti le bal des bandes dessinées de l'intime, comme ça, en jeu, en noir et blanc, pas nécessairement comique, pas pour les enfants. C'est la nouvelle chose. Pas pour les enfants.
Mm-hmm.
C'est pas des comics. Justement, après l'apparition de Mouse, on a commencé à dire qu'est-ce qu'on va faire avec des bandes dessinées comme ça? Comment qu'on va les appeler? On peut plus appeler ça comics. Mouse, ça parle de l'Holocauste. Là, c'est grave. Là. Fait qu'ils ont inventé ce terme « graphic novel » pour cataloguer ça.
En français, roman graphique.
Ouais. Puis en fait, nous, on n'avait pas besoin de faire ça. Les Anglais étaient pognés avec le mot « comics ». Fait que comme quoi c'est... Tu sais, ce mot-là est comme un peu...
Oui.
C'est touchy. « Comics », ça fait genre, tu sais, Zégépus, les peanuts, parce que c'est drôle. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec le... Quand c'est une bande dessinée pour adultes, tu sais. Nous, on était pognés avec le terme « bande dessinée pour adultes » parce que ça fait 3X, parce que dans notre temps... bande dessinée pour adultes, c'était des bandes dessinées de sexe. Eux autres étaient pognés avec le mot comics.
Qu'est-ce qu'on fait?
Le mieux, en fait, pour nous, bande dessinée pour adultes, ce serait super. Mais c'est juste que c'est encore connoté. Ah, tu veux dire 3X cochons? Non, non, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Ouais. Ah, tu veux dire 3X cochons? Tu sais, on n'est pas encore débarrassé de ça. Quand on dit bande dessinée pour adultes, les gens pensent que c'est
alors
comme...
comment on...
film pour adultes. Tout dans le temps, les films pour adultes, ça existe encore.
Au cinéma L'Amour, ouais. ça existe encore,
on
en tout cas.
On dit plus ça, par exemple, non, les films pour adultes.
Le temps file, j'ai encore beaucoup de questions.
Moi, je pense que la journée ici, j'ai tout le monde.
Ben, pourquoi pas? Michel, vous avez été fait chevalier de l'Ordre national par l'ancien premier ministre du Québec, François Legault, que vous avez d'ailleurs trouvé bien sympathique. Oui. Vous avez reçu le prix Athanase David, qui est la plus haute distinction en littérature au Québec, c'était en 2022. Vous allez faire votre entrée dans l'édition 2027 du Petit Robert Illustré. Il y a l'Association des architectes en pratique privée du Québec qui vous a récompensé récemment pour votre contribution au rayonnement du patrimoine bâti du Québec. Puis j'en ai pas nommé, j'ai pas fait le tour au complet de toutes vos distinctions, vos prix. Recevoir beaucoup de reconnaissance, est-ce que ça engendre parfois plus de pression que de satisfaction?
Oh, moi, oui, ça me stresse, ces affaires-là. J'avoue, là, c'est comme, oh my God, là, je vais recevoir l'Ordre du Canada aussi le 1er juillet là, à Ottawa. Là.
Bravo!
Que, c'est vraiment
vous allez tour... l'accepter?
Ben oui, c'est le tour du chapeau. Ben oui, j'accepte ça. Ah oui, moi, je suis pas le genre à faire comme, non! Non! Moi, l'accepter, c'est parfait. Puis en plus, il y a des canapés gratuits. Hein, là, c'est ça,
bon,
c'est
alors profitons-en.
C'est ça qui est important.
Et j'ai lu dans Le Devoir qu'il y a de la joie marque peut-être la fin pour la série des Pauls. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi?
Moi, je ne le sais jamais. Puis ça se pourrait. Je prends de l'âge, je suis fatigué.
Pas 95 ans.
Non, peut-être. Mais là, pour l'instant,
c'est... On veut voir Paul vieillir.
Oh, oui, ben, ce serait une bonne idée, je pense, que je m'en irais probablement par là.
Paul ou Serge.
Ce serait super.
Bon, alors, Michel Rabagliati, sur ces bonnes paroles, je vous dis un grand merci. Vous êtes partout, votre livre est dans toutes les librairies, peut-être en ligne, on va vérifier, vous êtes en séance de signature. Merci de faire partie de nos vies. Et merci aussi pour ce nouveau livre illustré, intitulé « Il y a de la joie », un livre rempli de tendresse et d'espoir.
Merci.
Merci. Merci à vous. On se retrouve lundi. Mardi, 9h30.